mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Bonjour aux auditeurs.
Je te propose maintenant de poursuivre l'évocation de ceux que Girard considérait comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui avaient compris à quel point le mimétisme est à la racine du comportement humain.
Tu nous as déjà parlé de Shakespeare.
Nous pourrions nous intéresser aujourd'hui à Stendhal et Cervantes. Mais il nous faudra aussi parler de Dostoïevski, de Proust et de Flaubert.
Cela commence à faire beaucoup de prédécesseurs.
D'une manière générale, Girard considérait que tous les auteurs dont les œuvres reflètent bien la nature humaine avaient forcément compris le rôle et les effets du mimétisme. Et selon Girard, certains d'entre eux non seulement reflètent notre nature mimétique, mais encore la révèlent.
C'était, je crois, le cas de Shakespeare. Est-ce la même chose pour les auteurs que tu proposes aujourd'hui, Cervantes et Stendhal ?
Bien sûr, et ils ont même joué auprès de Girard un rôle encore plus important. Ils lui ont fait comprendre les enjeux du mimétisme dans le comportement. Si tu t'en souviens, Girard s'était aperçu que Shakespeare contenait toute son anthropologie, toute sa vision de l'homme. Mais il s'en était aperçu une fois son anthropologie élaborée, tandis que Cervantes, Stendhal et quelques autres lui ont carrément fait découvrir le concept de son anthropologie, le mimétisme des désirs. C'est en effet dans son premier livre, « Mensonges romantiques et vérités romanesques », que Girard prend conscience du mimétisme des désirs et en expose l'importance dans le comportement humain. Et cette découverte résulte de l'analyse des œuvres de quelques auteurs, dont Cervantes et Stendhal.
Allons donc sur les traces de cette découverte.
Tout le monde connaît Don Quichotte, au moins par quelques épisodes, comme le combat contre les moulins à vent ou la guerre contre les moutons. Don Quichotte est un hidalgo désargenté, dont la tête est farcie de romans de chevalerie. Il s'exalte et décide de faire revivre l'idéal chevaleresque. S'ensuit une épopée comique dans laquelle ses entreprises s'effondrent dans le ridicule. Il prend les moulins à vent pour des géants. Le contraste est encore accentué par son valet, Courtaud et terre-à-terre, que Don Quichotte part du titre pompeux d'écuyer. Dégrisé par de nombreuses déconvenues, Don Quichotte meurt en abjurant sa passion pour les romans de chevalerie. Si le consensus est acquis pour voir en Don Quichotte un chef-d'œuvre de la littérature mondiale, sa signification profonde suscite encore bien des débats. Pour certains, c'est une critique de la noblesse et du clergé. Pour d'autres, c'est une allusion aux entreprises de Charles Quint. La lecture directe comme simple parodie des romans de chevalerie existe toujours. À l'époque romantique, Don Quichotte était vu comme un héros idéaliste, incompris par une société matérialiste et prosaïque.
Et René Girard ?
Il propose une interprétation nouvelle. Don Quichotte est pour lui l'incarnation du désir mimétique, car il calque sur les chevaliers son costume, son comportement, son langage, et même ses idéaux, le but même de sa vie. Or, les chevaliers n'existent plus au moment où Cervantes situe l'action de Don Quichotte. La Renaissance a fait son œuvre. Le Moyen-Âge n'est plus qu'un souvenir. Don Quichotte trouve ses modèles dans les romans de chevalerie dont il se farcit la tête. Pour Girard, c'est la révélation du mécanisme fondamental. Nous ne sommes que ce que nous désirons être, et ce que nous désirons être nous est inspiré par des modèles.
N'est-ce pas là une interprétation un peu forcée ? Le personnage de Don Quichotte peut n'être qu'un cas particulier dont Cervantes exploite le potentiel comique.
Je crois que nous pouvons suivre l'interprétation de Girard, et cela pour deux raisons. D'abord, par le rayonnement universel et durable du personnage de Cervantes, s'il s'agissait d'une figure comique de circonstance, juste pour faire rire à un moment donné de l'histoire de l'Espagne, il serait oublié depuis longtemps, et même la perfection de la prose de Cervantes ne séduirait plus que les hispanophones. Ce rayonnement et cette longévité montrent que le personnage résonne au plus profond de chacun de nous, et que Cervantes a touché du doigt les vrais ressorts de l'âme humaine.
Et la deuxième raison ?
La deuxième raison est que René Girard va retrouver ces mêmes ressorts, et plus précisément le ressort mimétique, dans d'autres chefs-d'œuvre incontestés de la littérature mondiale. Nous allons le constater en nous intéressant à Stendhal, puis à bien d'autres.
Avant cela, encore une question. Comment Girard comprend-il la fin du roman ? Le personnage de Don Quichotte nous est sympathique. Sa fin nous paraît cruelle, et par-dessus le marché, il renonce à son idéal.
Effectivement, la punition paraît rude. La lecture girardienne permet de comprendre que Don Quichotte ne s'est pas mis à la recherche de sa propre existence, mais qu'il a voulu vivre celle d'un autre, celle d'un chevalier imaginaire. C'est le dévoilement de la face sombre du mimétisme. Cervantes nous avertit que l'idolâtrie à l'égard de nos modèles est un piège funeste. Si effectivement nous progressons en imitant des modèles, par contre, nous nous perdons en suivant un de façon absolue.
Tu nous proposais de passer à Stendhal.
Oui, et plus précisément à son roman « Le rouge et le noir ». Il raconte l'ascension et la chute d'un jeune paysan du Jura, Julien Sorel, qui s'élève par son talent dans la société de 1830. Il séduit tour à tour deux femmes. Au moment où il s'apprête à épouser la seconde, Mathilde de La Mole, devenant ainsi le gendre d'un puissant marquis, un témoignage malencontreux de sa première maîtresse, Madame de Rênal, ruine ses projets. Il retourne alors dans le Jura, tire un coup de pistolet sur elle et la manque. En prison, délivré de son ambition, il prend alors conscience de la sincérité de son amour pour elle et qu'elle partage en dépit de la tentative d'assassinat.
Quels sont les phénomènes mimétiques que René Girard a discernés dans ce roman?
Nous avons d'abord le personnage de Julien. Il ressemble d'une certaine façon à Don Quichotte, car lui aussi a une idole, Napoléon. Don Quichotte était immergé dans les romans de chevalerie. Pour Julien, c'est le mémorial de Sainte-Hélène. Mais l'idolâtrie de Julien se double d'une haine farouche contre l'aristocratie qui a repris les rênes de la société après la chute de son héros. Et pourtant, il n'a de cesse que de devenir l'un d'eux, ce à quoi il est sur le point de parvenir. C'est ici que Girard découvre une deuxième loi du désir mimétique, celle de la rivalité. Julien est un aristocrate par le talent, l'intelligence et la capacité de travail. Il rêve de dominer la société, comme ceux dont il a l'exemple sous les yeux. Sa haine n'est rien d'autre qu'une rivalité mimétique. Ce qui a également frappé Girard, c'est que tous les personnages du roman sont saisis par le désir mimétique, ce qui le mène bien sûr à y voir un ressort universel. Avec Don Quichotte, nous pouvions, comme tu l'as fait, avancer l'hypothèse qu'il est un cas particulier, puisqu'il est le seul personnage atteint par le mimétisme. Avec Le Rouge et le Noir, cela n'est plus possible.
Peux-tu nous donner quelques exemples?
Mathilde de La Mole, celle que Julien est sur le point d'épouser, vit dans la vénération d'un de ses ancêtres, le seigneur Boniface de La Mole, décapité pour conjuration sous Charles IX. Elle admire son énergie et son courage et rêve de l'imiter. Le mari de la première maîtresse de Julien est un ultra, maire de la ville, en compétition permanente avec le candidat libéral. Le père de Julien Sorel joue de cette rivalité pour obtenir des conditions exceptionnelles pour son fils lors de son recrutement comme précepteur. Enfin, même Madame de Rênal, la figure la moins touchée par le désir mimétique, cède cependant à un accès de jalousie et envoie une lettre de dénonciation qui sera fatale à Julien.
Jean-Louis, nous avons un point à traiter. Nous voyons bien comment Cervantes et Stendhal ont pu inspirer à René Girard l'idée du mimétisme des désirs et des rivalités mimétiques. Mais ce sont là des fictions, des romans. Les personnages ne sont pas réels. N'est-ce pas une difficulté, alors que c'est une anthropologie bien réelle que Girard entreprend de fonder?
Ce n'est pas une difficulté si l'on prend l'aventure intellectuelle de René Girard dans son entier. Ton objection serait valide si l'anthropologie de Girard se résumait à son premier livre, où il puise tout en effet dans la littérature. Mais son anthropologie n'est achevée qu'avec son troisième livre, « Des choses cachées depuis la fondation du monde », dans lequel il prend en charge des phénomènes bien réels, confirmés par les psychiatres Guy Lefort et Jean-Michel Hougourlian. Disons que la littérature l'a mis sur la voie d'une hypothèse, le mimétisme du désir, et que ses travaux ultérieurs lui ont permis de donner une assise bien réelle à sa théorie anthropologique. Il faut dire aussi qu'il s'est appuyé, avec Stendhal en particulier, sur des auteurs réputés pour leur profonde connaissance de la nature humaine, et dont les personnages sont, comme on dit, criants de vérité.
Je suppose que nous évoquerons d'autres auteurs de la même trempe dans une prochaine émission.
Tout juste, Catherine. Je pense à Flaubert, Dostoïevski et Proust.
C'est noté. Merci Jean-Louis. Au revoir.
Au revoir Catherine, et merci aux auditeurs de leur écoute.